des idées qu'elle avait déjà eues. Camille Lorenz n'a pas l'intention de faire un procès. Elle estime que c'est un problème moral. Mais pour son éditeur, POL, les relations sont rompues. Il ne l'éditera plus. Écoutez, on l'écoute, Paul Otchakovsky.
Dans cette histoire, dans cette affaire, mon parti est très très clair. Hein. Je soutiens Marie Darrieussecq contre des accusations qui sont totalement injustes et pas fondées. Il n'y a rien de commun entre les deux livres. Il y a une vraie fiction avec des paysages, une atmosphère, une tonalité qui sont totalement différentes de ceux du livre de Camille Lorenz, Philippe, qui est lui un récit, un constat, une description d'un événement douloureux qui s'est produit dans la vie de Camille Lorenz. Ça n'a rien de commun. En fait, ce qui se passe là pose la question des rapports entre ce qu'on appelle l'autofiction, c'est-à-dire la mise en forme littéraire d'événements réels, et la fiction. Et je ne voudrais pas qu'on arrive à l'interdiction de la fiction au nom de la vérité et du réel et du vécu. Mais je trouve absolument insensé qu'on oblige un écrivain à se justifier de son inspiration.
Voilà, les professionnels sont toujours beaucoup plus clairs. Il est 13h31 sur France Inter. Je vous souhaite une belle après-midi. Il est l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui un des peintres les plus singuliers du XXe siècle, Amedeo Modigliani. Modigliani était notre aristocrate. Il nous dessinait aux tables de la rotonde, comme il nous jugeait, nous aimait ou nous contredisait. Son dessin était une conversation silencieuse. Jean Cocteau. D'histoire. Jusqu'à sa mort à 36 ans, le corps ravagé par l'absinthe, la drogue et la tuberculose, Modigliani aura essayé de vendre pour une bouchée de pain des toiles qui valent aujourd'hui des fortunes. Il avait pourtant si profondément marqué ses contemporains que le jour de ses obsèques, le 27 janvier 1920, tout ce que Paris comptait de peintres, de sculpteurs, d'écrivains et de poètes était venu au Père Lachaise pour lui rendre un dernier hommage. Il y avait Max Jacob, Kissling, Soutine, Brancusi, Derain, Fernand Léger, Utrillo, Van Dongen, Vlaminck, Fujita et même Picasso qui murmura à l'oreille de Francis Carco « Tu vois, maintenant il est vengé ». C'est dire à quel point, sans avoir adhéré à aucune école, cet artiste singulier avait fasciné tous ceux qui l'ont connu. Comme à l'âge de 16 ans, en 1902, Modigliani avait impressionné son professeur de peinture à l'Académie de Florence.
Les enfants, saluez Monsieur Fattori.
Bonjour, maître.
Bonjour, maître.
Voici Martinelli, Manlio Martinelli.
C'est pas mal. Mélangez davantage les couleurs de votre palette.
Et voici le bon élève dont je vous ai parlé.
Bien, bien, ah, vraiment bien. Ah, voilà un jeune homme qui ne manque pas de talent.
Amedeo Modigliani, surnommé Dedo.
Ah, eh bien, mais c'est tout à fait l'atmosphère de la banditella sous un ciel couvert. Ah, mais ça me plaît.
Marc Restellini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la Pinacothèque, ancien commissaire d'une belle exposition sur Modigliani qui s'est tenue à Paris en 2002 et 2003. Et puis vous en préparez une autre à Tokyo, hein, prévue pour 2008. C'est dire d'ailleurs à quel point ce peintre est aujourd'hui mondialement connu, beaucoup plus d'ailleurs qu'il ne l'était de son vivant, un peu comme Van Gogh. Au fond, la gloire de Modigliani est à bien des égards une gloire posthume.
C'est-à-dire que Modigliani étant mort très jeune, et la gloire commençait, la reconnaissance commençait à venir, déjà dans le milieu artistique, auprès de ses amis et des autres peintres, il commençait à être connu, il commençait à avoir une réputation, mais il a été balayé par la mort. Et effectivement, sa mort dramatique, et surtout celle de sa compagne Jeanne Buterne, qui se suicide le lendemain, de sa mort va provoquer une espèce de choc artistique. de choc dans le monde des artistes. C'est une mort dramatique. Elle se jette du cinquième étage de son immeuble. C'est une enfant, pratiquement, elle a 21 ans. Qu'est-ce qui l'a poussée à faire ça? Est-ce que c'est la passion pour l'homme? Est-ce que c'est est-ce qu'elle était sous l'emprise? Ça fait de Modigliani un espèce de monstre sacré. Tout d'un coup, il change de dimension. Il devient autre chose.
Et alors, il a une vocation très précoce. Hein. Je crois qu'en fait, il commençait à se passionner pour le dessin, la calligraphie très tôt. Et à se passionner non pas pour l'art moderne dont il allait devenir un précurseur, mais alors pour des peintres et des sculpteurs de la Renaissance italienne. C'est ça, ce sont ces modèles, ces maîtres, ces véritables maîtres, bien avant qu'il n'ait commencé à peindre.
La tradition italienne est importante chez Modigliani, c'est indéniable. Néanmoins, Modigliani est mort à 36 ans d'une maladie qu'il avait déjà eue en étant enfant adolescent. À 14-15 ans, il a une tuberculose. Cette tuberculose, à cette époque, il faut comprendre, on en mourait. Modigliani, donc, est un miraculé. Il ne meurt pas de sa tuberculose. Il est sauvé par des soins extrêmement attentifs que lui prodigue sa mère. Et il va devenir, aux yeux de sa mère et à ses yeux, lui-même, un espèce de miraculé, d'être hors du temps, hors du monde, un être à part. Et c'est vrai qu'il aura eu la promesse de sa mère que s'il restait en vie après cette maladie, il deviendrait peintre. Donc sa mère a exaucé ce vœu. Et Modigliani, comme tous les grands artistes, effectivement, a été attiré par la création artistique extrêmement jeune. Et c'est après sa maladie qu'il a commencé réellement à peindre, à suivre un enseignement, à voyager.
Dans son pays d'origine, hein, il est né, il faut le rappeler, en 1884 à Livourne. Effectivement, il voyage partout et là, il découvre justement ces peintres, ces sculpteurs du Quattrocento à Naples, à Venise, à Florence. Et plus intéressé d'ailleurs au départ, et même il le sera toute sa vie, par la sculpture que par la peinture aussi, Marc Castellini.
La sculpture est au centre de sa création. C'est d'ailleurs ce qu'on va développer dans l'exposition de 2008. L'exposition sera sur Modigliani et le primitivisme. La sculpture comme, en fait, totem, comme tel que Brancusi l'a défini, tel que Brancusi va lui apprendre, c'est-à-dire comme une espèce de référent à des cultures. Alors certes, il y a l'Italie, mais il y a aussi toutes ces cultures auxquelles Modigliani va s'intéresser et pour lesquelles il va faire une espèce de synthèse et créer un espèce de pont dans la suite absolument logique de ce qu'a fait Gauguin, entre les arts primitifs, ce qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers, c'est-à-dire art africain, art océanien, l'antiquité égyptienne, et l'art occidental. Et ça, c'est essentiel. C'est le point incontournable qui forge l'art de Modigliani.
Alors, ce qui va l'en empêcher, en fait, c'est sa tuberculose. Alors, ça, c'est en Italie. Et puis, un jour convaincu, donc, que ce n'est pas dans son pays, justement, qu'il pourra le mieux s'exprimer, il arrive en 1906 à Paris, où il va rencontrer les plus grands peintres du début du XXe siècle.
Excusez-moi, je cherche un atelier. Je suis peintre.
Italien ?
À cause de ma tête, c'est ça ?
Hey, tu cherches un atelier?
Oui.
Je connais un endroit où il n'y a que des ateliers d'artistes. Si tu veux, je peux t'accompagner.
Je m'appelle Amedeo Modigliani. Et toi, tu as dit?
Como? Oui,
qu'est-ce que tu peins, hein?
Des vues de Paris.
À l'huile, l'après-nature, comment tu peins?
À l'huile, à l'aquarelle. Ma mère aussi est peintre et un bon peintre, tu peux me croire. Elle est même assez renommée. Valadon, Suzanne Valadon. Elle a été le modèle préféré de Toulouse-Lautrec.
Mais qui est Toulouse-Lautrec?
Le prince de Montmartre. Mais tu sais vraiment pas grand-chose, on dirait. Il va falloir t'y mettre, il est temps de rattraper le temps perdu.
Et c'était l'extrait d'un film de Franco Taviani avec Richard Berry dans le rôle de Modigliani. Modigliani, donc, qui en 1906 arrive à Paris et rencontre au fond tous les peintres et les sculpteurs européens qui s'y sont donné rendez-vous. Il y a Van Dongen qui vient de Hollande, il y a le sculpteur roumain Brancusi, il y a Fujita qui vient encore de beaucoup plus loin, du Japon, Soutine de Lituanie, Kiesling de Pologne, et puis évidemment le plus célèbre d'entre eux à l'époque qui est Picasso venu d'Espagne. Comment expliquer que finalement, Marc Castellini, que tous ces peintres soient venus se donner rendez-vous à Paris au même moment en ce début de XXe siècle? Qu'est-ce qui les fascinait dans Paris? Pourquoi ils sont-ils venus?
Paris est un espèce d'Eldorado culturel à cette époque. C'est un lieu où se passe la culture, c'est un lieu qui est l'émanation d'une vieille tradition qui va attirer à cette époque effectivement tous les artistes d'Europe centrale et créer dans ces années entre 1905 et 1939-40 ce qu'on a appelé l'école de Paris avec une attraction extrêmement forte. On est dans l'impression que on peut devenir célèbre, on peut réussir, il y a des grands artistes, il y a des grands marchands. Il y a tout ce qui s'est passé.
Une émulation aussi entre eux. Puis alors, ils se retrouvent, ils vivent ensemble. Ils ne font pas que peindre ou sculpter ou écrire, parce qu'il y a aussi des poètes parmi eux. Mais ils se retrouvent toujours au même endroit. Alors, ce sont deux quartiers. Il y aura eu d'abord Montmartre avec son célèbre bateau lavoir, et puis Montparnasse plus tard avec la cité Falguière, et puis tous ces cafés, la Rotonde, le Dôme, la Closerie des Lilas, où d'ailleurs Modigliani se fait tout de suite remarquer, et notamment parce qu'il buvait énormément, il se droguait aussi, Marc Castellini.
Oui, ça rentre dans la légende. Mythe et la légende Modigliani. Vous savez, on a les écrits extrêmement précis de Paul Alexandre, qui était médecin, explique beaucoup d'artistes drogués. Un artiste cherche systématiquement des moyens pour trouver de nouveaux modes de création. Donc on essaye d'entrer dans des espèces de mondes différents où il va y avoir une sublimation d'une réalité. La drogue, l'alcool en fait partie. Picasso s'est drogué aussi. Mmh. On n'en fait pas grand cas. Mais pendant une période certaine, Picasso a utilisé la drogue aussi comme élément, comme instrument lui permettant de trouver des mondes imaginaires à représenter. Modigliani utilise la drogue comme ça. Paul Alexandre, qui a été son marchand, médecin, qui a justement accueilli Modigliani dans cette communauté d'artistes de la rue du Delta, qui atteste que ce monde des artistes est une communauté où tout le monde se retrouve. Et la drogue est un des sujets qui était utilisé, approfondi, étudié pour voir comment ça pouvait avoir des répercussions sur la création. Donc oui, Modigliani s'est drogué, ça n'était pas un drogué. L'alcool relève de la même chose, sauf que Modigliani effectivement buvait beaucoup, mais par l'alcool
Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que quand il arrive à Paris, au fond, la peinture s'est divisée en deux grands courants. À l'époque, on a les fauves avec Matisse, avec Vlaminck, avec Derain, avec Van Dongen. Et puis, il y a évidemment les cubistes qui commencent à apparaître derrière Picasso. Lui, en revanche, n'appartient à aucune école. Et on a l'impression que pendant des années, il arrive en 1906, et ça va durer comme ça longtemps, il se cherche, en fait. Il cherche un style.
Il cherche pas un style, en fait. Il sait la voix qu'il doit avoir. Il faut encore sortir de cette idée que Modigliani était un peintre léger. Modigliani n'est pas un peintre léger. Modigliani est un intellectuel. Il parle français comme vous et moi. On n'a même absolument pas la preuve qu'il ait un accent. Il a une connaissance de la littérature, de la philosophie qui est extrêmement approfondie. C'est un être hors du commun, Modigliani. La phrase de Cocteau, tout à l'heure, que vous citiez, parlait d'un aristocrate. Modigliani est un aristocrate et il se considère comme tel. Ce qui lui donne un espèce de côté un peu arrogant, où il considère qu'il est légèrement supérieur aux autres. Il lit, dès 1909, on en a la trace par des courriers, Les Chants de Maldoror, qui est un ouvrage qui sera considéré comme découvert en 1923 par Cocteau. Donc si vous voulez, dès 1909, Modigliani a ce livre comme livre de chevet. C'est le livre de base des surréalistes. Modigliani va au-delà du surréalisme, mais il n'existe pas encore, ouais. Mais il a cette espèce de trait de génie intellectuel où il donnera à son art une espèce d'apparence, de facilité, de légèreté qui masque en fait tout ce qu'il y a d'intellectuel dans son œuvre.
Alors on n'a peut-être pas le son de sa voix, l'enregistrement de sa voix, Marc Castellini. En revanche, on a des photos de lui. Il était extraordinairement beau et il avait un succès considérable auprès des femmes.
Il avait beaucoup de succès, c'était quelqu'un de très beau. Mais il avait la beauté de cette aristocratie que décrit Cocteau. C'est-à-dire que c'était un personnage qui se donnait, qui avait dans son apparence physique tous les éléments d'un être supérieur. On a des témoignages extrêmement précis de la rencontre avec Anka Zborowska, avec Lunia Tchaïkovska. Tous décrivent Modigliani comme un personnage hors du commun, quelqu'un de différent.
Et puis aussi avec celle qui était à l'époque l'égérie du tout Paris littéraire, devenue la maîtresse de Modigliani, avec laquelle il va d'ailleurs passer 2 ans d'une passion extraordinairement violente, Béatrice Hastings, qui lui servait aussi de modèle.
Mais tu me vois réellement comme ça, hein? Je suis vraiment comme ça pour toi? Anguleuse, laide, ou bien ridicule. Mais ma bouche, tu l'as fait disparaître.
Mais qu'est-ce que tu dis?
Qu'est-ce que je dis? Je dis que tes tableaux ne me ressemblaient pas du tout.
En effet, ce ne sont pas eux qui doivent te ressembler, c'est toi qui leur ressembles.
Ah, voilà la sentence du génie. Lui, il a tout mis en place, et qui peut répliquer? Pourquoi dans cette putain de nuit, il y a tout ce qu'il n'y a pas dans mes portraits?
Quand elle rentrait et qu'elle me voyait peindre près du poêle, peindre une autre toile, elle s'arrêtait, elle regardait. Mon pinceau était pris dans un pastis de bleu, ça sentait le roussi, je demandais, il pleut. Silence sépulcral. Alors je lui faisais en me grattant le poil. Eh bien, qu'est-ce que t'en dis? C'est pas très commercial.
Commercial, je m'en fous, mais toi, patate pomme,
qu'est-ce que t'en dis? Elle répondait, moi j'aime les hommes. Ils sont tous maudits, 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 maudits. Modigliani.
Claude Nougaro, maudit Modigliani. Modigliani qui, toute sa vie, d'ailleurs je suis assez étonné, je vois dans le catalogue de l'exposition que vous lui avez consacrée, il n'y a pratiquement que des portraits, très peu de paysages, très, pratiquement pas de nature morte.
Il n'y a pas de nature morte, il y a 4 paysages qu'il a fait, et effectivement l'essentiel de sa production ce sont des portraits, parce que le portrait va être la continuation de son travail sur la sculpture. Le portrait va être l'application artistique de tout ce qu'il a théorisé autour de son travail sur les cariatides, de cette figure du totem, de cette figure du masque, de cette logique de la figure primitive qu'il a travaillé avec Brancusi. Et toute l'œuvre de Modigliani sera autour de ce personnage masqué avec ses yeux absents, qui est dans la même logique que celle de Picasso avec le totem dans sa période des Demoiselles d'Avignon. Le travail de Modigliani et le travail de Picasso sont extrêmement parallèles pendant toute cette période, disons dans la période de 1907 à 1915, le travail de Modigliani et celui de Picasso sont parallèles, différents mais parallèles. L'approche de Picasso est beaucoup plus instinctive, c'était pas Picasso avait senti les choses et il avait peut-être précédé ce qu'il pouvait voir de l'art africain. Modigliani en fait une synthèse intellectuelle. Modigliani en a la connaissance, il voit les choses, il va au Louvre, il passe ses journées au Louvre, il visite les départements d'art égyptien, art océanien, et il fait une synthèse.
Mais ces tableaux, ces portraits, ou ces nus, hein, ça, les nus, c'est ce qu'il y a de plus célèbre chez Modigliani, ça ressemble effectivement à des sculptures. On dit qu'il peignait très vite, Marc Castellini. C'est vrai qu'il a laissé beaucoup de peintures, et encore, si on ne compte pas celles qu'il a détruites.
Encore une fois, il donne l'impression de peindre vite. Les témoignages qu'on a de ces séances de portraits sont variables, et il pouvait mettre 3 semaines pour faire un portrait, entre 15 jours et 3 semaines. C'est pas vraiment rapide. Donc Modigliani, oui, il semble avoir, encore une fois, cette espèce de sentiment, de facilité qu'il donne. D'ailleurs, c'est ce sentiment de beauté, de facilité qui a trompé les gens pendant tant d'années. Pendant tant d'années, on a pensé que Modigliani était un peintre facile. Aujourd'hui, on est en train de découvrir que c'est un peintre fort et profond.
Et portraits qui sont aussi pour beaucoup des commandes, comme celle des marchands d'art, dont d'ailleurs il dépendait pour vivre, que ce soit Georges Chéron, Paul Guillaume, mais surtout, le plus important de tous, celui qui allait le faire connaître, Léopold Zborowski et sa femme Anka, qui rencontre Modigliani en 1916.
Mais qui est-ce?
Mais comment qui est-ce? C'est Modigliani, le peintre italien, à l'exposition, tu te souviens? Aide-moi.
Ah.
Je l'ai trouvé au milieu de la rue, il était en train de jeter ses dessins par terre.
Mais qui sei tu? O mio sostegno.
Léopold Zborowski.
Je te connais.
Non, mais moi je vous connais.
Peintre?
poète polonais.
Et madame?
La femme du poète et philanthrope quand j'ai du temps à perdre. Tu comptes le garder longtemps?
Tant qu'il ne sera pas rétabli. Regarde. Quelle merveille.
Mais il ne nous arrive plus un centime de Pologne depuis 3 mois.
Il nous paiera avec ses dessins.
Tu es un poète, pas un marchand.
Ça ne m'humilierait pas de devenir le marchand d'un autre poète.
La rencontre avec Zborowski, Marc Rastellini, ça a été essentiel. Ça intervient à l'extrême fin de la vie de Modigliani, qui était courte, hein, il faut le rappeler. Mais c'était vraiment, d'ailleurs, un marchand d'art très original parmi les autres.
C'était ce qu'on appelait un marchand en chambre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas de galerie, à la différence de Paul Guillaume, qui était le marchand précédent de Modigliani. Et en fait, Paul Guillaume et Modigliani ne s'entendaient pas très bien. La relation entre les deux était assez conflictuelle. Modigliani considérait que Paul Guillaume ne s'occupait pas assez de lui, et Paul Guillaume trouvait Modigliani encombrant. Donc en gros, Paul Guillaume a demandé à Zborowski de prendre en charge Modigliani, ce qu'il a fait. L'entente entre les deux hommes semble plutôt bonne. Zborowski est un personnage dont on ne finit pas d'essayer de comprendre qui il était. Psychologiquement, c'est quelqu'un de très intéressant. C'est un poète. C'est un personnage qui va aider curieusement.
Il le fait pour l'amour de l'art. Il le fait pas
oui,
pour l'argent.
C'est très difficile de savoir. Il le fait par intérêt pour tous ces artistes qui.
Oui, mais je veux dire, c'est pas pour faire de l'argent indépendamment de ce qu'ils produisent. C'est ça que
non, mais d'un autre côté, Zborowski était quand même quelqu'un qui avait un train de vie fastueux, surtout après la mort de Modigliani. Donc c'est quand même quelqu'un qui a fait... Aucun marchand ne fait les choses pour autre chose que pour l'argent quand même.
Il avait un contrat avec lui, je crois, de 15 francs par jour, c'est-à-dire de 20 euros d'aujourd'hui, ce qui n'était pas si mal, mais ça intervient à la fin quand même d'une vie où il a vraiment tiré le diable par la queue, Modigliani.
Il a un contrat avec Zborowski à partir de 1918, un contrat de 500 francs par mois, et il doit fournir un certain nombre de points, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, qui correspondent en fait à 5 tableaux par mois à peu près. Donc Modigliani remplit son contrat, Zborowski ne paye pas toujours facilement, mais le paye néanmoins. C'est un contrat qui est pas mal pour l'époque, ça permet à Modigliani de vivre. Modigliani est passé par une période extrêmement difficile sur l'époque Chéron, sur l'époque Paul Guillaume, naturellement, mais à partir de Zborowski, ça commence à aller mieux. Et Zborowski commence à vendre certaines de ses œuvres dès 1919, notamment.
Et puis surtout, quand même, il organise pour lui la première exposition qui lui est consacrée. On est en pleine guerre, hein, il faut le rappeler. C'est, je crois, en décembre 1917, une exposition à la galerie Berthe Weil, qui était rue Taitbout, et qui provoque d'ailleurs un scandale, je crois, parce qu'on avait tout simplement exposé en vitrine, peut-être pour attirer le chaland, les nus de Modigliani.
Il y avait un nu de Modigliani en vitrine, et effectivement, ça a provoqué une friction avec la préfecture qui a demandé que les œuvres soient retirées. C'était la première exposition de Modigliani à Paris dans une galerie en 1917, oui.
Les gens ont appelé la police qui est rentrée, je crois que le commissaire qui arrive et qui dit « Mais enfin, c'est scandaleux, un nu !» Et puis Modigliani dit « Mais qu'est-ce que c'est scandaleux ?» Et puis montrant du doigt une partie bien précise du nu, il dit « Il y a des poils !»
Ben oui, mais parce que c'était la première fois qu'il y avait des poils sur les pubistes de représentation de l'art féminin. Donc c'était une évolution dans le nu pour la période Renaissance, c'est une allégorie. Avec Modigliani, déjà avec Manet, l'Olympia, c'était devenu quelque chose d'extrêmement provocant parce que l'Olympia regardait le spectateur droit dans les yeux. Modigliani va encore au-delà. Il démystifie le mythe de l'allégorie du nu pour en faire une femme érotique. Et donc c'est un scandale. Encore aujourd'hui, dans certains pays, il est relativement difficile de faire une exposition avec des nus parce que ça peut provoquer des soucis.
Et on était en décembre 1917, Modigliani n'avait plus que 2 ans à vivre et Zborowski avait encore du mal à vendre ses tableaux.
Modigliani pas toujours les mêmes choses, c'est plus une nouveauté.
Mais pas vrai, vous ne pouvez pas dire ça.
Bon.
Chaque portrait est une invention complètement différente. Et puis désormais avec Modigliani et Picasso...
Oh, ne faisons pas de comparaison pareille. Sur le marché, Picasso a une autre cote. Avec une cote de Picasso, aujourd'hui, j'achète 20 Modigliani.
Prends-lui. Combien il voulait t'en donner?
Écoute, Modi, calme-toi. C'est normal, nous sommes en train de traiter une affaire.
Combien on les vendait au début?
J'en ai marre. Tu ne dois plus discuter. Il lui plaît, donne-lui. Il lui plaît pas, qu'ils aillent tous se faire enculer. Ils veulent donner 10 francs, ça signifie que c'est ça que je mérite. Ça suffit.
Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Écoutez, excusez-le, il est un peu énervé. Ça va passer, on va reprendre la discussion.
Un cognac, bon Dieu.
C'est assez pathétique les derniers mois de la vie de Modigliani, Marc Restellini. Il continue de se détruire avec l'alcool, il a la tuberculose. Et pourtant, il y a aussi un rayon de soleil, c'est cette femme qu'il rencontre qui deviendra, je pense, son grand amour, qui est Jeanne Hébuter, dont vous parliez au début, qui se suicidera juste après sa mort.
C'est une passion, parce qu'en fait, Modigliani a toujours eu un rapport aux autres artistes qui était un rapport de fort, il les soutient. Modigliani a soutenu Soutine. C'était un peintre qu'il adorait. Modigliani va soutenir Jeanne Hébuter. Jeanne Hébuter va être plus qu'une maîtresse, plus qu'une amante, va être une élève qu'il va soutenir. C'est une grande artiste, on ignore pratiquement toute son œuvre. On la redécouvre récemment grâce à l'exposition qui était à Milan, que j'ai pu faire.
Une œuvre qui ne doit pas être considérable, elle est morte à 21 ans. Hein.
Elle est morte très jeune, elle a laissé un certain nombre de dessins qui sont extraordinaires, qui sont d'autant plus intéressants qu'ils sont le revers du miroir de l'œuvre de Modigliani. Quand Modigliani fait un dessin, il ne montre rien de l'entourage du personnage qui est dessiné. Jeanne Hébuter, contrairement à lui, peint l'ensemble de ce qui l'entoure. On voit, grâce à ses dessins, la vie quotidienne, l'univers dans lequel il vivait. C'est très intéressant.
Et elle se jette par la fenêtre, vous le disiez, le lendemain de la mort de Modigliani, le 24 janvier 1920, donc elle meurt en 25. Enceinte en plus. Qu'est-ce qui reste de cet homme qui n'avait, je l'ai dit, vous l'avez dit, vous le confirmez, qui n'avait pas d'école, qui n'avait pas de maître, qui n'a sans doute pas eu de disciple, aujourd'hui sa place dans la peinture, en deux mots, Marc Restellini?
Je pense que sa place aujourd'hui est importante à l'égal probablement de Picasso et de Rhin, sur tout ce qui, en ce sens qu'ils ont été tous les trois les premiers à, en quelque sorte, synthétiser une espèce de pont, pour la première fois, entre les arts primitifs et l'art moderne occidental tel que nous le connaissions. En le modifiant, Cézanne, il y a une espèce de lignée, si vous voulez, Cézanne, Gauguin, Cézanne, Picasso, Modigliani, de Reims, les baigneuses, les cariatides, tout ça relève de les demoiselles d'Avignon, tout ça relève de la même logique esthétique.
Merci Marc Restellini de nous avoir rappelé donc Modigliani, son œuvre aussi que l'on retrouve dans le catalogue de l'exposition Modigliani, l'ange au visage grave, qui a eu lieu au musée du Luxembourg en 2002-2003 et dont vous étiez le commissaire. Je rappelle aussi que vous préparez une exposition donc sur Modigliani qui sera inaugurée à Tokyo en 2008. À lire également Modigliani de Doris Christophe, réédité par Le Monde dans la collection Le Musée du Monde. Vous avez pu entendre des extraits de Modigliani, de Franco Brogitaviani avec Richard Berry dans le rôle titre. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Sophie Moreno, documentation Claire Tesser, Clamy Poux et Mathieu Menossi, une réalisation de Anne Comilac.
Merci Patrice Gélinet. Il s'agissait d'une émission déjà diffusée le 24 novembre 2005. La semaine prochaine, dans 2000 ans d'histoire, Louis XIV, artiste lundi. Mardi, une émission consacrée au chat. Mercredi, Victor Hugo dans l'arène politique. Jeudi, le travail des femmes. Et vendredi, 1961-1989, le mur de Berlin. Que cet après-midi de 18h à 19h, l'escale estivale d'Emmanuel Kérad sera en direct de Saint-Cloud à l'occasion du festival Rock en scène. Il recevra notamment le groupe Arcade Fire et puis après le flash, Fabienne Chauvière jusqu'à 15h30 qui nous parlera quant à elle du vieillissement. Évidemment, toutes ces références sont à retrouver, je vous le rappelle, sur le site de franceinter.com. sa 18e édition, Présence, le festival de création musicale de Radio France, part à la rencontre de nouveaux publics en région.
Lille inaugure cette série d'événements itinérants les 14, 15 et 16 septembre.
À l'affiche, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de Lille, Boyan Z et Martial Solal.
Présence à Lille, 4 concerts gratuits au nouveau siècle.
Renseignements 01 56 40 15 16 et sur radiofrance.fr.
Les concerts de Radio France,
prolongez l'émotion.
Bon après-midi à toutes et à tous à l'écoute de France Inter, il est 14h. Le Flash, Marine Chailloux, bonjour.
Bonjour. Christine Lagarde a présenté sa nouvelle copie économique. Principale mesure de cette rentrée, le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunts immobiliers. Ce projet ne concernera que les personnes ayant acheté un bien à partir du 6 mai 2007, propriété neuve ou ancienne. Les avantages fiscaux en déduction d'impôt seront plus importants la première année. Ils doublent, passant de 20 à 40% du montant des intérêts des emprunts payés. Car le coût du crédit est plus important la première année. Ensuite, le crédit d'impôt redescendra à 20% pendant les 4 autres années. Et puisque l'on parle d'économie, parlons porte-monnaie. Le prix de la baguette devrait augmenter à la rentrée. Selon les professionnels du secteur, cette hausse serait due à la flambée des cours du blé. Hier, ils ont atteint un nouveau record. Autre raison avancée, la revalorisation du SMIC. Le prix du pain devrait donc...